Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 9 Tei, 1400 du calendrier iranien, 30 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les partenaires des États-Unis et de l'Iran en 2015 sont satisfaits des tendances positives à Vienne, a annoncé la Russie. L'Iran a vivement condamné la réunion du cabinet de sécurité israélien dans le Golan syrien occupé. Le lancement réussi ce jeudi de trois appareils de recherche spatiale par la lance satellite Simorgh. Et l'Iran se prépare à commémorer le deuxième anniversaire de la mort en martyr du général Soleimani. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le haut négociateur iranien et les représentants des trois États européens, membres du plan global d'action conjoint, ainsi que M. Enrique Mora, secrétaire général adjoint de la politique extérieure de l'Union européenne, se sont réunis jeudi matin à Vienne dans le cadre d'intenses consultations liées à l'accord nucléaire de 2015. La réunion intervient avant la fin des vacances du nouvel an. Avant cette réunion, une rencontre bilatérale a eu lieu entre Ali Borelikhani, négociateur en chef iranien, et Enrique Mora. Parallèlement, des réunions au niveau des experts sont menées de manière bilatérale et multilatérale. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a fermement condamné la tenue d'une réunion du cabinet du régime sioniste sur les hauteurs du Golan occupé et l'a qualifié d'acte de provocation. Le plateau du Golan occupé fait partie intégrante de la République arabe syrienne, selon plusieurs résolutions onusiennes, notamment la résolution 497 du Conseil de sécurité. Et l'Assemblée générale des Nations unies le confirme chaque année, a déclaré le diplomate iranien. Khatibzadeh a ajouté que l'expansion des colonies et l'augmentation du nombre des colons sionistes sur les hauteurs du Golan ne peuvent en aucun cas changer la réalité et les colons sionistes doivent savoir qu'ils ne pourront pas vivre longtemps dans les territoires occupés. Le lancement réussi ce jeudi de trois appareils de recherche spatiale par la lance satellite Simorgh. Dans cette mission de recherche spatiale, a affirmé un porte-parole du ministère iranien de la Défense, Ahmad Hossein, pour la première fois, trois charges utiles de recherche ont été lancés simultanément à 470 km de la Terre et avec une vitesse de 7350 mètres par seconde. Ce lancement réussi prouve la capacité spatiale de l'Iran et celle de lancer de petits satellites. Au fait, lors de ce lancement, les performances des composants de la base spatiale et celles de différentes étapes du satellite ont été mises à l'épreuve avec succès et les objectifs de recherche visés par ce lancement ont été atteints. Les données du lancement permettront d'autres lancements opérationnels, a ajouté ce responsable. À l'approche du deuxième anniversaire du martyr du général Qassem Soleimani, assassiné le 3 janvier 2020 par les militaires criminels de l'armée américaine à Bagdad, la nation iranienne a commencé à rendre hommage à son héros en organisant divers événements commémoratifs. Jeudi, une cérémonie a eu lieu à Téhéran pour rendre hommage au commandant de la force Quds, le martyr Qassem Soleimani. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis que l'Iran ferait tout son possible pour traduire en justice les auteurs et les commanditaires de ce crime. L'armée israélienne autorise officiellement ses troupes à tirer à balles réelles sur les Palestiniens qui lanceraient des pierres ou des bombes incendiaires, même s'ils ne représentent pas une menace imminente. L'armée israélienne a considérablement assoupli ses règles de tir dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Elle autorise désormais ses soldats à tirer à balles réelles sur des civils palestiniens qui lanceraient des pierres ou des bombes incendiaires, même s'ils ne constituent plus une menace imminente. Jusqu'à présent, l'armée n'autorisait, au moins officiellement, l'utilisation de la force létale que pour prévenir une attaque imminente. Cette mesure ne concerne en revanche pas les civils israéliens tels que les colons qui jetteraient des pierres, car ces dernières bénéficient de la protection du système judiciaire civil, alors que c'est le régime militaire qui s'applique aux Palestiniens de Cisjordanie. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Un haut diplomate russe a déclaré que les participants à une réunion à Vienne entre les États-Unis et les 5 partenaires de l'Iran dans l'accord de 2015 se sont déclarés satisfaits des tendances positives des discussions en cours visant à obtenir la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Le négociateur en chef de la Russie, Mikhail Ulyanov, a déclaré mercredi dans un tweet que les délégués des États-Unis et du groupe des pays 4 plus 1, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et Chine, se sont réunis pour des entretiens à Vienne sur l'état actuel des choses dans les discussions qui visent à obliger Washington à lever ses sanctions et à revitaliser l'accord de 2015. Le plan global d'action conjoint. Tous ont noté avec satisfaction les tendances positives au cours des négociations, a déclaré Ulyanov, qui est l'ambassadeur de Russie auprès des organisations internationales dans la capitale autrichienne. L'Iran et le groupe des pays 4 plus 1 ont entamé lundi le 8e tour des pourparlers à Vienne, axé sur la suppression de toutes les sanctions imposées à Téhéran après le retrait unilatéral de Washington de cet accord. les États-Unis ne sont pas autorisés à assister directement aux pourparlers en raison de leur retrait du plan global d'action conjoint. Dans d'autres tweets, Ulyanov a déclaré qu'il avait tenu deux réunions distinctes avec l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran, Robert Malley, le même jour. Des consultations et une coordination étroite entre les délégations russes et américaines au cours des pourparlers de Vienne constituent une condition préalable importante pour progresser vers la restauration du plan global d'action conjoint, a déclaré Ulyanov dans son message. À la suite de la deuxième réunion, le négociateur en chef de la Russie a déclaré que Moscou et Washington maintenaient un dialogue intensif et il a dit qu'il pense utile au cours des pourparlers de Vienne sur la manière et les moyens concrets de restaurer le plan global d'action conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré mardi que les négociations de Vienne avançaient dans la bonne direction et qu'un accord était possible si les autres parties faisaient preuve de bonne volonté et de sérieux. Le troisième jour des pourparlers, le négociateur en chef iranien Ali Boredikhani et le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora, qui préside la commission conjointe du plan global d'action conjoint, ont tenu une réunion. Ali Boredikhani, qui est vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques, a tenu une autre réunion avec les principaux délégués des trois signataires européens du plan global d'action conjoint. Le représentant de l'Union européenne était également présent à la réunion. S'adressant aux journalistes après les réunions, Ali Boredikhani a déclaré que les pourparlers de Vienne avançaient avec une tendance positive. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu un entretien téléphonique avec ses homologues français, allemands et britanniques et les pourparlers de Vienne ont été parmi les sujets abordés, a annoncé le département d'État américain. Dans une déclaration au sujet de cet appel téléphonique, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré qu'ils avaient discuté de leurs préoccupations communes concernant le rythme des développements du programme nucléaire iranien, alors que le temps manquait pour que Téhéran revienne, selon eux, au plan global d'action conjoint. Un an après la sortie de Washington de l'accord et l'échec des signataires européens à respecter leurs engagements sous les pressions des États-Unis, l'Iran a pris une série de mesures de rétorsion loin de l'accord, en plusieurs étapes conformément à ses droits contractuels légaux. Avec une nouvelle administration en poste aux États-Unis, Washington dit vouloir rejoindre l'accord de 2015, mais il tarde à lever les sanctions contre l'Iran. Téhéran a fermement insisté sur le fait que les États-Unis doivent d'abord lever les sanctions de manière vérifiable, donner des garanties qu'ils ne quitteront plus l'accord nucléaire avec l'Iran et compenser tous les dommages infligés à l'Iran en raison de son retrait illégal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder de ce retrait américain et de l'Irak, de la présence américaine militaire américaine en Irak et vivement contestée, tant au niveau des dirigeants, surtout au niveau de la population. Il y a eu une loi qui avait été votée après de l'assassinat du général martyr Soleimani, commandant de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique, lors d'un attentat terroriste effectué par les États-Unis à l'aéroport de Bagdad. Et suite à cet assassinat, il y a eu cette loi du Parlement irakien qui insiste sur le retrait des troupes militaires américaines de l'Irak. De ces derniers temps, il a été annoncé que les troupes militaires américaines, les troupes de combat US, vont se retirer de l'Irak, mais il y avait en fait cette exigence du côté de la résistance. La résistance, c'est qui insiste sur le fait que, en fait, le dernier soldat militaire américain doit quitter le territoire irakien. Il ne s'agit pas de changer du nom de mission des troupes américaines en Irak. La résistance insiste sur le retrait définitif, une fois pour toutes, des troupes militaires américaines de l'Irak. Il y a de l'autre côté, en fait, ce qui se passe en territoire des Syriens. La Syrie aussi insiste sur le retrait des militaires américains. Cette présence militaire américaine en territoire syrien est vivement contestée, tant au niveau du pouvoir syrien qu'au niveau de la population. Et c'est dans un tel contexte que le régime israélien a en fait mené ces derniers temps plusieurs agressions contre le territoire syrien, de ce qui montre que voilà, les Israéliens sont en train d'effectuer, si vous voulez, des agissements désespérés. Pourquoi ? Parce que en fait, leur politique anti-syrienne, c'est désormais un constat d'échec. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste français des questions internationales. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et Ahmed, il y a...
Merci beaucoup. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales par Skype. Il s'agit de Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation et mes salutations à M. Dortiguier et à tous vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Maître Atem, je viens de lancer le sujet. Comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement en Irak, au niveau des dirigeants et de la population, également en Syrie, en ce qui concerne l'insistance sur ce retrait des troupes militaires américaines de l'Irak et également de la Syrie, s'il vous plaît?
Alors, en ce qui concerne les troupes américaines, en particulier en Irak et en Syrie, par rapport à d'autres endroits du Moyen-Orient, il s'agit d'une occupation manu militari de ces deux États. Nous savons que l'agression américaine qui a eu lieu en 2003 contre l'Irak constitue un acte d'occupation parce qu'elle est contraire aux normes internationales avec cette notion de guerre préventive. Et il n'y avait pas de motif pour cette intervention-là. Deuxièmement, en Syrie, cette intervention militaire américaine n'avait pas été faite à la demande du gouvernement officiel de cet État de la Syrie, comme c'était par exemple l'appel qui a été fait par le gouvernement syrien d'abord à l'Iran, ensuite à la Russie, pour l'aider à réduire la force et à frapper les terroristes qui faisaient tout pour déstabiliser l'État syrien, le front al-Nusra d'abord, mais ensuite Daesh, et toutes ces forces de mercenaires qui venaient de pays de l'Est, qui avaient déjà participé à l'époque de la guerre en Afghanistan, c'est ce qu'on appelait les Moujahidines, et qui avaient combattu en Bosnie et ailleurs, et la plupart sont venus d'ailleurs s'attaquer à la Syrie. Donc ce retrait américain ne peut faire que respecter donc le droit international. Mais ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire, Il y a des tractations politiques et malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, les différentes interventions américaines sur la scène internationale à la fin de la bipolarisation démontrent un irrespect total du droit international public par les États-Unis et la transformation de la scène politique internationale en une véritable jungle contre laquelle il s'est déployé Boutros Ghali pour lutter. Mais malheureusement, les Nations Unies se sont retrouvées de plus en plus sous l'hégémonie américaine, surtout depuis la fin du mandat de Boutros Ghali. Alors, c'est ce qui explique aujourd'hui cette situation aussi bien en Syrie et en Irak. Et il ne faut pas oublier, il faut le rappeler, que les troupes terroristes de Daesh ont été créées, renforcées, aidées aussi bien par les services américains que les services israéliens. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les Américains, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président Donald Trump qui l'avait affirmé durant sa campagne présidentielle lors de son premier mandat. Et Mme Hillary Clinton l'avait même aussi reconnu dans son livre « Choices ».
Monsieur de Dortillier, vous venez d'entendre Maître Atem. Selon Maître Atem, en fait, cette présence militaire américaine en Irak, également en Syrie, c'est une occupation manu militari, c'est un acte d'agression, c'est une violation de la souveraineté de l'Irak et de la Syrie. Et c'est en se référant, si vous voulez, de ce point ô combien important que la résistance irakienne insiste sur le fait que les troupes de combat américains doivent quitter l'Irak définitivement avant le 31 décembre, sinon la résistance passera, si vous voulez, à l'action pour, si vous voulez, obliger les militaires américains de quitter l'Irak. Monsieur Dortillier, en fait, c'est un acte d'agression, c'est une violation de la souveraineté de l'Irak et la résistance irakienne est dans son rôle, n'est-ce pas, monsieur Dortillier ?
En effet, elle est tout à fait conforme à la loi et à la loi irakienne, puisqu'il s'agit d'une décision parlementaire. L'État irakien et le Parlement irakien ont évidemment, c'est une évidence, évidemment le droit de proclamer, bien sûr, l'illégalité d'une agression, car il ne s'agit que d'une agression. N'oublions pas que les Américains ne sont pas venus à l'appel du gouvernement ou d'un gouvernement irakien. Ils ont été, c'est un acte de violence pure et simple, voyez, qui a été bien sûr moralement acceptable ou accepté en Occident parce que on a fait valoir que les États-Unis étaient eux-mêmes victimes d'un certain terrorisme, etc. Oui, en effet, on peut discuter bien sûr du fond des choses, mais l'apparence était, on pouvait donner une apparence à l'agression américaine, mais il s'agit cependant toujours d'un fait d'agression. En tout cas, il n'y a jamais eu d'appel, que ce soit du gouvernement syrien, du gouvernement irakien, à des forces américaines. Comme par exemple, il y a eu un appel de la Syrie, par exemple à l'aide russe, à cause de la base de Tartous, qui était initiale, bien sûr. Et là, il s'agit bien sûr d'une alliance, disons. Or, il ne s'agit aucunement, il n'y avait aucunement d'alliance, quelque alliance que ce soit, entre le gouvernement irakien et le gouvernement américain, ni même la présence de je ne sais quel gouvernement irakien en exil qui aurait pu, par exemple, sous prétexte de démocratie, dire qu'il était légitime et appeler les Américains. Tout ceci, c'est un des exemples les plus extraordinaires d'arbitraire dans les relations internationales. Maintenant, la situation en Irak est celle-ci. Les Américains, bien sûr, nous en sommes sûrs, vont au pire, naturellement, à cette nécessité de partir. Mais est-ce qu'ils ne vont pas leur présence ou une partie de leur présence sous prétexte de coopération militaire? Ça, il s'agit là d'une intrigue, bien sûr. Je ne crois pas que le Parlement, en tout cas irakien, accepterait même une deuxième forme de présence américaine.
Maître Atem, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dortillier également vient d'exprimer de son avis sur ce sujet. Je viens de le dire tout à l'heure que voilà, les États-Unis ont déclaré de vouloir en fait de quitter l'Irak avant le 31 décembre. Autrement dit, les troupes de combat américaines, selon la version officielle de Washington, vont en fait de se retirer de l'Irak avant le 31 décembre. Mais il y a eu en fait ces informations comme quoi il va y avoir en fait la présence des militaires américains, mais ils vont agir dans le cadre, si vous voulez, de la formation des militaires américains, des militaires irakiens, pour en fait de donner des conseils, si vous voulez, aux forces irakiennes, autrement dit, agir en qualité de conseiller militaire. Mais la résistance irakienne insiste sur le fait qu'il n'est pas question de tolérer la présence militaire américaine en territoire irakien, que ce soit si vous voulez, au nom des conseillers militaires et autres. Maître Atem, vous êtes juriste international. Si les militaires américains refusent de quitter l'Irak avant le 31 décembre, la résistance irakienne, juridiquement parlant, peut-elle recourir au droit de la légitime défense contre les troupes militaires américaines?
Je ne parlerai pas de la légitime défense, parce que pour parler de la légitime défense, il faut une attaque, donc une agression et une riposte qui soit proportionnée à l'attaque. Nous sommes dans un autre cadre qui est prévu par la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le principe de l'autodétermination, donc la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et le principe de une autorisation particulière, c'est une exception au principe du non-recours à la violence dans les relations internationales en ce qui concerne les mouvements de résistance nationale. Vous vous souvenez, la France qui a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de résistance nationale français qui a été mené contre l'occupant nazi a été considéré comme ayant effectué des actes qui sont conformes, certes ce n'était pas la Charte des Nations Unies, mais c'était la SDN, mais la Charte des Nations Unies a repris des principes de la Charte de la SDN, et nous avons vu un élargissement aussi de cette notion de la libération nationale, c'était la lutte également contre le colonialisme, contre la colonisation donc, de certains pays, qui est donc l'usage de la force dans un cadre particulier qui est celui de la résistance nationale pour sauvegarder la souveraineté et l'indépendance. Ça, c'est d'un point de vue juridique. Maintenant, comme nous le savons, en plus, et j'insiste là-dessus, cette intervention américaine en Irak n'a pas eu lieu conformément aux règles du droit international, c'est-à-dire en passant, en demandant une autorisation, autrement dit une résolution du Conseil de sécurité qui lui doit veiller sur la paix et la sécurité internationale. C'est une intervention unanime qui a été, comme vous le savez, également condamnée à l'époque par la France. Donc aujourd'hui, un mouvement de résistance nationale de la part des Irakiens pour libérer leur pays de l'occupation étrangère est tout à fait, je dirais, licite d'un point de vue international. Dernière chose, il faut rappeler quel était l'objectif des Américains dans cette intervention. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'est déstabiliser les institutions et l'État irakien. Nous avons vu de quelle manière ça a été déstabilisé, comme ils ont réussi également à déstabiliser d'autres pays arabes, soit par des révolutions de l'intérieur, et si ces révolutions faites de l'intérieur par l'intermédiaire de services, d'agents et de l'argent, et j'en passe, ne marchaient, ne fonctionnaient pas, ils faisaient appel à une intervention extérieure. C'est ce qui s'est passé en Irak pour la déstabilisation du pays, et deuxièmement, et surtout ce point est assez important, pour créer des conflits communautaires, en particulier entre les sunnites et les chiites, pour répondre à un projet politique vieux depuis, je dirais, le début même du XXe siècle, c'est créer des entités ethniques ou des entités communautaires ou confessionnelles, à l'exemple de l'ethnocratie israélienne, pour pouvoir s'entretuer pendant des décennies et de ce fait-là, que l'État Israël puisse avoir une certaine légitimité en tant qu'ethnocratie à l'instar donc des autres pays qui vont émerger. Voilà les objectifs des Américains qui malheureusement ont réussi à semer la zizanie dans la population irakienne comme ils l'ont fait d'ailleurs partout dans les pays arabes.
Monsieur Dortillier, maître Hatem, s'agissant de la résistance nationale irakienne, évoque de ce principe de la liberté des nations de disposer d'eux-mêmes. Maître Hatem estime que voilà, c'est dans le cadre de ce droit que la résistance nationale en Irak peut entrer en action pour sauvegarder la souveraineté du pays, pour libérer l'Irak de l'occupation étrangère, en l'occurrence américaine. Est-ce votre avis également ?
Bien effet, je me permets... Je crois que de nombreux auditeurs sont avec moi pour relever, disons, l'excellence de ce que dit Maître Hatem sur les mouvements, disons, de déstabilisation, d'opposition de communautés entre sunnites, chiites, par exemple. Tout ceci vient, bien sûr, d'études, on pourrait dire psychologiques, américaines, de stratégies.
Monsieur Dortillier, il y avait. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends.
Je vous en prie, il y avait une interférence dans vos paroles. Je vous en prie, je vous remercie de continuer. Notre liaison avec Toulouse est mauvaise. Et, malheureusement, je reviens vers vous, Maître Hatem, pour poursuivre notre débat. Maître Hatem, je viens de le dire tout à l'heure en début de notre émission, c'est dans un tel contexte que du côté israélien, en fait, il y avait... cette multiplication ces derniers temps des agressions israéliennes contre le territoire syrien, le régime israélien qui a agressé, et qui a mené des agressions contre le port de Latakia ou de son présent également les militaires russes, monsieur de Hatem. S'agit-il en fait d'un message envoyé par le régime israélien à l'endroit de la Russie de Vladimir Poutine? S'agit-il des agissements désespérés du côté israélien? Parce que, en fait, comme je viens de vous le dire, selon de nombreuses analyses, la politique anti-israélienne, anti-syrienne du régime israélien, c'est désormais un constat d'échec, Maître Hatem.
Effectivement, tout d'abord, si je me permets de vous rectifier une expression quand on vous avait parlé d'une agression israélienne à l'encontre de la Syrie. Il faut rappeler, pour parler d'agression, il faut qu'un État puisse appartenir, je dirais, à la société internationale, respecter en général le droit international et enfreindre dans une situation ou dans une autre les règles. Et dans ce cas-là, on peut parler d'agression. Or, l'entité sioniste n'a jamais respecté le droit international. Il y a eu une pléthore de résolutions, aussi bien du Conseil de sécurité des Nations Unies que de l'Assemblée générale des Nations Unies, que cette entité, vous appelez un État, n'a jamais respecté. Aujourd'hui, Israël commet des actes de terrorisme. Nous avons vu comment est-ce qu'elle a fait en Iran, en opérant sur un territoire qui n'a jamais d'ailleurs touché la sécurité intérieure d'Israël, et elle a commis des actes de terrorisme en assassinant donc des personnes, en commettant en fait des explosions. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui la Syrie, les institutions syriennes qui ont été retestées et puis qui ont profité de l'intervention à la demande du gouvernement officiel de l'Iran et surtout et après de la Russie pour finir avec ces organisations terroristes, il faut le dire, telles que le Front al-Nusra qui n'est autre que la branche d'Al-Qaïda en Syrie, ou bien Daesh, cette fameuse organisation qui, comme je le disais tout à l'heure, était stipendiée par de l'argent de l'extérieur et que, comme par hasard, n'a jamais agressé l'État israélien, sauf une fois, ou plutôt c'est dans le sens contraire, où Israël avait fait un bombardement au Golan, et elle a failli toucher, ou elle a touché à l'époque une position de Daesh, elle s'est tout de suite excusée après. Donc on voit très bien que l'objectif d'Israël, c'était de renforcer ces mouvements terroristes, de déstabiliser l'État syrien. Aujourd'hui, cet acte terroriste qui a été fait par Israël est doublement d'une chose. Premièrement, ils accusent soi-disant la Syrie de recevoir des munitions de la part d'un État allié qui est l'Iran. Cela n'a pas été prouvé déjà. Deuxièmement, elle ne s'attaque pas simplement au port, mais également à une zone touristique pour détruire l'infrastructure, car encore une fois, l'objectif de l'entité sioniste est de détruire l'ensemble des pays environnants pour les faire régresser économiquement, financièrement, culturellement, et j'en passe. Deuxièmement, il y a un autre message à la Russie, car l'endroit où cet acte terroriste a eu lieu était à 20 km de la base russe. Maintenant, les Russes sont dans une grande difficulté parce que, comme vous le savez, ils sont en train d'ailleurs de se préparer pour régler le problème avec l'Ukraine, où déjà leur armée est en train, en fait, de s'entraîner d'une part, et puis d'autre part, de préparer une éventuelle attaque. Alors, la Russie aurait pu intercepter ou répondre à cet acte terroriste de la part de l'entité israélienne, l'entité sioniste, mais si elle l'aurait fait, ça aurait été une sorte de casus belli entre la Russie et Israël, et ce que la Russie voulait éviter.
Merci infiniment, Maître Atem, pour cette rectification. Merci beaucoup pour cette analyse, comme toujours d'ailleurs, pertinente et complète. Vous l'avez dit, Maître Atem, il s'agit en fait, s'agissant de ces agressions et ces frappes israéliennes contre le territoire syrien, selon Maître Atem, il s'agit des actes de terrorisme, parce que le régime israélien, son objectif a été toujours d'appuyer les groupes terroristes opérant en territoire syrien. Merci beaucoup, Maître Atem, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont à vous également, Pierre Dortillier, philosophe français, spécialiste des questions internationales, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants taquiristes. Semaine difficile pour le Burkina Faso, avec la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée dans une embuscade des terroristes taquiristes tendue dans le nord du pays. Suite à la tragique attaque terroriste au Burkina Faso, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a sympathisé avec le gouvernement du Burkina Faso, le peuple et les survivants de cette attaque terroriste. Saïd Khatibzadeh a déclaré que le facteur le plus important dans la croissance des groupes terroristes dans la région et l'intérêt de certains pays face à la propagation de l'insécurité et de l'instabilité, tout en condamnant fermement le récent attentat terroriste au Burkina Faso. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé lundi sa profonde tristesse face à la mort d'un certain nombre de citoyens de ce pays massacrés
par des groupes terroristes. Un nouveau deuil national de 2 jours a été décrété ce dimanche par le président du Burkina Faso à la suite de la pression takfiriste qui continue à faire des victimes dans le pays. Cette semaine, des terroristes ont frappé et causé la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée, les volontaires de défense pour la patrie, VDP, dans la zone de Yu, dans le nord du Burkina Faso. Parmi les victimes figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP au Burkina Faso, précise le communiqué. Damas a accusé Ankara de jeter de l'huile sur le feu terroriste. Le double jeu de la Turquie à l'égard de la province syrienne d'Idlib pourrait-il prendre fin? Élément de réponse avec le géopolitologue Bassam Tahan. Après avoir gagné la guerre, il faut gagner la paix. Et ce n'est pas une mince affaire, en Syrie comme ailleurs. Les parties prenantes dans le dossier syrien se sont réunies les 21 et 22 décembre à Astana, Nur-Sultan, capitale du Kazakhstan, pour la 7e session. Lancée en 2017, cette initiative vise à résoudre le conflit syrien. Dans la capitale kazakh, se sont rassemblées ainsi les délégations turques, russes, iraniennes et bien sûr syriennes. La délégation syrienne étant guidée par le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Souzan. L'opposition syrienne était également présente en la personne d'Ahmad Touma. Le Liban, la Jordanie et l'Irak ont pris part au pourparlers avec un statut d'observateur. Idlib est au cœur de la discorde. Les priorités concernant le dossier syrien y ont été passées en revue. On y retrouve le défi de la reconstruction du pays, estimé à 800 milliards de dollars, l'urgence de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées par la crise économique, la fin des sanctions unilatérales américaines, le respect de la souveraineté syrienne et surtout l'importance de la lutte antiterroriste. Et c'est en cela que Damas condamne le comportement de la Turquie. Des résultats les plus constructifs auraient pu être obtenus si Ankara avait rempli les engagements qu'elle avait pris envers la partie russe de cesser de soutenir les terroristes takfiristes d'Idlib, a déclaré Ayman Souzan, chef de la délégation syrienne. Et ce, alors que la résurgence des activités terroristes dans ce pays du Moyen-Orient inquiète tous les acteurs. Le président Recep Tayyip Erdogan a toujours joué un jeu trouble en Syrie, commente Bassam Tahan, géopolitologue franco-syrien et ancien professeur à l'école de guerre, dans une interview accordée à l'agence russe Sputnik. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a une double posture sur le dossier syrien. D'un côté, il est l'ami des Occidentaux via l'OTAN. De l'autre côté, il participe au processus d'Astana avec les Russes et les Iraniens. Sauf qu'il veut garder une carte de pression dans les négociations avec la question kurde et les takfiristes d'Idlib. En effet, la province d'Idlib regorge de combattants takfiristes, principalement regroupés au sein de Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, dirigée par Abu Muhammad al-Julani. Les autorités syriennes font état de plusieurs attentats et attaques contre les villes limitrophes d'Alep et de Hama. Incendies criminels, attaques de transport de troupes, voitures piégées, enlèvements, prises d'otages. Parmi les terroristes présents dans la zone, il y a beaucoup de Turkmènes et des Maghrébins. Ils sont 20 000 à 30 000 terroristes étrangers dans la province syrienne d'Idlib. C'est une bombe à retardement si le problème n'est pas traité correctement, met en garde le géopolitologue. Il y a une connivence indéniable entre les différents groupes takfiristes présents dans la zone, mais également à Ankara, accuse Bassam Tahan. Pour tenter d'imposer son influence dans la zone et contrer toute velléité de reprise de la ville, la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan y aurait envoyé plus de 15 000 soldats, à en croire l'Institut Brookings, une ONG américaine. La Turquie profiterait de surcroît de la crise pour enrôler les Syriens. Recrutés à la frontière, ces mercenaires participaient pour le compte d'Ankara à des actions dans le nord de la Syrie ou dans le Haut-Karabakh pour un salaire mensuel d'environ 2 000 $ et d'obtention de la nationalité turque. Les changements de la ligne turque sont-ils en vue? Mais compte tenu de la crise économique actuelle en Turquie, la politique d'Ankara en Syrie pourrait évoluer. Ankara n'a plus les moyens de ses ambitions, avance le spécialiste du Moyen-Orient. En effet, la livre turque est plongée dans une zone de turbulence. Cette monnaie est courante dans la province d'Idlib, qu'il avait acceptée en juin 2020 pour éviter les sanctions américaines contre la monnaie locale. Mais résultat de la chute de la livre, plus de 75% des habitants de la localité dépendent toujours de l'aide humanitaire. La province est peuplée d'environ 4 millions d'âmes. Les deux tiers sont les réfugiés syriens. La Turquie est obligée de revoir sa politique. Le président Recep Tayyip Erdogan doit privilégier sa politique interne, constate Bassam Tahan. Et c'est peu dire. Depuis plusieurs mois, Recep Tayyip Erdogan a remisé sa tenue de militaire pour endosser l'habit du diplomate. Il se réconcilie avec ses anciens adversaires régionaux pour tenter de freiner la crise qui se profile sur son économie. Adversaire d'Ankara pendant une décennie, Mohammed Ben Zayed, homme fort des Émirats arabes unis, a été accueilli en novembre dernier dans la capitale turque. Abu Dhabi y a même signé plusieurs contrats de coopération pour un montant de 10 milliards de dollars. La Turquie aurait de surcroît commencé à prendre quelque peu ses distances avec les frères musulmans pour se réconcilier avec l'Égypte. Cette conjoncture d'apaisement régional serait en effet propice à une désescalade dans le dossier syrien. Recep Tayyip Erdogan va finir par rentrer dans les clous. Il est obligé de faire un appel pour son économie vacillante. C'est comme le serpent qui se mord la queue, estime Bassam Tahan. Bassam Tahan reste tout de même prudent, Erdogan n'ayant peut-être pas dit son dernier mot sur la Syrie. Il ne reste plus qu'à savoir si la Turquie respectera les nouvelles clauses du processus d'Astana. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Thank you.